La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine au Rwanda. 25 ans après le génocide des Tutsis, nous vous proposons de découvrir l'itinéraire d'une rescapée, Emilienne Mugansoro, l'une des initiatrices des premiers groupes de parole dédiés aux femmes victimes de viols et de mutilations pendant les massacres des mois d'avril, mai et juin 1994.
Parler, c'est reprendre le dessus sur le passé. Parce que parler, c'est vaincre la mort. Parce que parler, c'est se dire, je suis en vie. Ndiho, c'est-à-dire, je vis. Je vis avec les autres. Je vis, je ne suis pas seule.
Emilienne Mugansoro, je suis très heureuse de vous recevoir chez moi, puisque vous m'avez souvent reçue chez vous, au Rwanda. Donc, bienvenue à RFI, bienvenue dans la marche du monde.
Merci.
J'aimerais que l'on revienne sur votre parcours, Emilienne Mugansoro. Nous sommes 25 ans après le génocide des Tutsis du Rwanda, perpétré entre le 7 avril et le début du mois de juillet 1994, où près d'un million d'hommes, de femmes et d'enfants sont morts assassinés au nom de la haine envers les Tutsis. Parmi eux, des femmes, des hommes et des enfants hutus ont également été tués, accusés de soutenir les Tutsis contre le gouvernement génocidaire. 25 ans après, vous êtes debout. Et en tant que psychothérapeute, vous accompagnez des groupes de femmes victimes de violences sexuelles pendant le génocide. C'est un travail éprouvant, c'est un travail précieux. Et je sais que vous êtes très peu de professionnels à pouvoir accomplir ce que vous faites. 25 ans après le génocide, quelle est l'image que vous avez de vous aujourd'hui, Emilienne Mugansoro?
C'est une bonne question. Quelle est l'image? En fait, des fois, je me dis que je suis forte. Des fois, je ne suis pas forte. Il y a des fois où je ne sais pas pourquoi je suis en vie. Et d'autres fois, je me dis, tu es en vie pour aider les autres. Ou peut-être aussi pour parler, pour témoigner, pour peut-être transmettre quelque chose.
Vous étiez institutrice avant le génocide, un métier qui vous plaisait beaucoup d'ailleurs, et vous ne l'avez pas repris alors que vous restez très impliquée auprès des enfants, notamment les enfants orphelins du génocide. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous n'avez pas repris ce cher métier d'institutrice?
C'était un métier que j'aimais tant, c'était un métier de mon père. Mon père qui était un idéal pour moi. C'était un enseignant qui aimait son travail, qui le faisait bien, qui aimait tout le monde et surtout, qui aimait beaucoup ses élèves. Je me souviens qu'on pouvait manger mal, mais il payait les études pour un enfant intelligent qui n'a pas pu aller à l'école secondaire parce qu'il n'avait pas de frais scolaires. Il avait enseigné les pères et les enfants, donc il avait enseigné presque tout le monde. Mais quand le génocide a commencé, moi, je me suis dit, peut-être qu'on allait tuer tout le monde, mais pas mon père. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, il a été tué, sûrement qu'il a été tué par quelqu'un qui l'a enseigné. D'ailleurs, le premier qui l'a coupé un bras, c'était son élève. Ça, je dirais que ça m'a fait mal. Donc, alors, après le génocide, j'ai essayé. J'ai essayé de retourner en classe. J'ai essayé de reprendre le métier de mon père, mon métier aussi. Mais ça n'allait pas. Je n'ai pas pu. Et j'ai quitté.
Après le génocide, Emilienne Mugansoro, vous qui êtes rescapée du génocide, il fallait retrouver le chemin du travail. Ça a été un long chemin. Et reprendre le chemin de l'école, pour vous, ça n'a pas été possible. Quel chemin avez-vous inventé pour retrouver le goût du travail ?
Pour retrouver le goût du travail, longtemps après, j'ai fait une rencontre. J'ai eu une rencontre avec une petite fille qui se posait la question que normalement, moi, je ne me posais pas. La question de la vie, comment vivre ? Parce que c'est la question qu'elle m'a posée. En fait, j'avais une question en moi. Je me demandais pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui a pu survivre? J'ai rien fait, j'étais rien, je me suis pas cachée plus que les autres, donc j'ai rien donné pour survivre. Et j'étais en vie. J'étais en vie au moment où tous les autres étaient tués. Tous les autres, quand je parle de tous les autres, c'est difficile à raconter, mais j'ai vu les gens qui agonisaient, les gens. Je les ai vus, j'ai vu les tueurs en train de tuer, j'ai vu les bébés qui criaient. Alors, tout ça me revenait, je me demandais pourquoi. Pourquoi moi, j'étais en vie.
Et c'est cette question-là que cette petite fille vous a posée?
La petite fille m'a posé une belle question, une bonne question. Elle m'a dit, comment vivre? Comment faire pour vivre? C'est une réponse à ma question. Peut-être que je suis en vie pour aider les autres. C'est comme ça que j'ai retrouvé mon travail.
Ce qui est très intéressant dans votre parcours, Emiliane Moukansoro, c'est votre capacité à inventer des moyens de répondre aux besoins des enfants rescapés, alors même qu'ils ne sont pas capables d'exprimer leurs difficultés. Et avant même de vous former en tant que psychothérapeute, ce que vous avez fait en 2002, comment faisiez-vous face à cette détresse des enfants, mais aussi des hommes, des femmes? Et même face à leur silence parfois, comment avez-vous commencé à pratiquer ce métier de psychothérapeute avant même de savoir peut-être qu'il existait ce métier?
Alors avant d'être formée comme psychothérapeute, d'ailleurs on ne nous appelait pas psychothérapeute, on nous appelait conseillère ou conseiller du traumatisme. J'ai fait un travail qui m'a beaucoup aidé peut-être, c'était retrouver des familles pour les enfants qui n'avaient plus de famille. Parmi ces enfants, il y avait des enfants rescapés, des enfants qui n'étaient pas aimés parce que c'était des enfants tristes et puis désespérés. Alors, ce que peut-être mon travail m'a appris, c'est que les gens qui souffrent n'ont pas besoin qu'on leur parle. Ils n'ont pas besoin qu'on leur donne des conseils. Ils ont besoin qu'on leur écoute. Et même qu'on écoute quand ils ne parlent pas. Parce que souvent, c'est difficile de parler quand on souffre.
Donc au fond, Emiliane Moukansoro, avant même d'être formée en tant que psychothérapeute, intuitivement, vous avez senti que ce qui était important, c'était d'affirmer une présence auprès des enfants devenus orphelins, auprès des femmes violées, auprès des hommes parfois silencieux.
Jamais j'avais entendu le mot traumatisme et je crois que c'était inexistant dans notre société. Parce que dans notre société, quand quelqu'un manifestait des troubles, qu'on ne connaissait pas la cause, on allait chez Umupfumu. Alors, Umupfumu, c'est quelqu'un qui pouvait prédire, qui pouvait lire l'avenir.
On dit une voyante quand c'est une femme.
Ou une voyante ou un voyant ou pas un sorcier. Je crois que c'était pas un sorcier. Mais on allait consulter où on allait dans l'église. Après le génocide, remarque des choses qu'on connaissait pas, les symptômes. Les personnes qui marchent sur la route ou sur le chemin, qui entendent avec leurs oreilles des bruits. Des bruits, c'est pas des bruits, des cris. Et les gens qui ne dorment pas, les gens qui sont tristes, qui s'isolent, qui restent chez eux, qui ne veulent pas sortir. On ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi ça. Ils allaient consulter Mufumu. Ils allaient demander ce qui se passe. Et la réponse de Mufumu était simple. Vous avez vu les morts sur les collines, donc vous êtes hantés. Hantés par les mauvais esprits. Et c'est pas seulement le Mufumu qui avait cette réponse. Il y avait aussi les hommes de l'église. Il y avait aussi les gens qui savaient très bien prier Dieu. Et pourtant, je sais pas où il était au moment du génocide. J'ai entendu beaucoup de rescapés dire qu'ils ont cherché Dieu, qu'ils n'ont pas trouvé. Moi-même, je voulais chercher. Je ne l'ai pas trouvé. Parce que je voulais au moins, à un moment donné, je voulais être sauvée. Mais à un moment donné, je me suis dit, si je ne suis pas sauvée, au moins que je meure bien. Je voulais que ce soit Dieu qui m'aide à avoir une mort moins douloureuse. Mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, après le génocide, on a dû inventer des choses. On a dû inventer pour tenir debout.
Et chaque année au Rwanda, pendant les trois mois de deuil, qui correspondent aux trois mois du génocide de 1994, les Rwandais revivent leur traumatisme, qu'ils soient d'ailleurs victimes ou bourreaux. Et vous avez assisté à de très nombreuses crises traumatiques, notamment lors des inhumations du secteur de Kabagari. C'était en 2002, lorsque des milliers de corps sans sépulture ont été enterrés. Et vous avez pris en charge des rescapés en proie à ces crises.
Alors, nous parlons de crise traumatique quand quelqu'un tombe dans un moment où il est loin. Souvent, ils disent « au secours, devant moi, il y a les tueurs ». Comme si il est en train de vivre exactement ce qu'il a vécu pendant 1994. Il n'est pas avec nous. Alors, ce qu'on a fait ce jour-là, c'était d'essayer d'amener cette personne dans notre présent. Par exemple, je vais dire, je suis Emilienne, je suis thérapeute, je suis là pour t'aider, je comprends ce que tu vis, j'aimerais bien que tu t'en sortes, tu n'es pas en 94. Oui, tu as vu les tueurs devant toi, mais ils ne sont plus là. Alors si tu m'attends, est-ce que tu peux essayer d'ouvrir les yeux? Est-ce que tu peux toucher quelque chose? Est-ce que tu peux m'en parler? Voilà, petit à petit, tu la ramènes. Et après, vraiment, quand il y revient, il est fatigué. Et souvent, il s'endort. Et là, tu restes là, tu l'aides. Ta présence, c'est important pour lui. Il sent que c'est différent. C'est différent de ce qu'il a vécu pendant 94, pendant le génocide.
Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI. Nous nous interrogeons sur le pouvoir des mots au Rwanda avant, pendant et après le génocide des Tutsis, pendant lequel près d'un million d'hommes, de femmes et d'enfants ont été tués au nom de la haine raciale. Trois mois de massacre pendant lesquels les viols des femmes Tutsis ont été encouragés par le gouvernement extrémiste Hutu. Ces femmes disent d'ailleurs qu'elles sont symboliquement mortes en 1994. Le très regretté psychiatre Naason Munyadamutsa a su aider à vivre les rescapés dans l'après-génocide. Et voici ce qu'il écrivait. « Ce qui va te tuer, c'est aussi ce qui va te sauver. Ce qui fait qu'on vient de loin est aussi ce qui peut faire aller très loin. » Écoutez sa voix en 2005. Naason Munyadamutsa évoque au micro de Claire Edon pour son émission Priorité Santé la difficulté à former de nouveaux spécialistes.
L'essentiel aurait été de former des thérapeutes très compétents, des psychiatres très compétents, mais on n'en a pas encore les possibilités. Il faut bien partir de quelque chose. Donc nous sommes partis déjà depuis les années, fin des années 96 ou 96, et nous avons essayé un peu de former les gens sur le tas. C'est plutôt des infirmiers qui ont fait une spécialisation en soins psychiques.
Mais justement, alors vous qui avez une formation de médecin, de psychiatre, une formation qui a été longue, que vous avez la spécialisation, je crois que vous l'avez faite en Suisse, est-ce que vous n'avez pas l'impression, dans ces formations qui sont des petites formations, de faire un peu du bricolage et que ce n'est pas suffisant ?
C'est ce qu'on pourrait essayer de dire si on est puriste.
Ou si on est pessimiste, c'est ça.
Voilà, si on est puriste ou pessimiste. Mais ce que je sais seulement, c'est que l'essentiel des gens qui croupent sous la souffrance psychologique liée au drame que notre pays a connu sont davantage aidés par leurs proches, par leur communauté d'appartenance, par les familles, pour ceux qui en ont, par les amis.
La première écoute, elle est là.
Exactement, la première écoute, elle est là. Nous héritons plutôt déjà qui n'ont pas vraiment trouvé de réponse tellement la fracture a été profonde. C'est extrêmement utile. Mais il faut pouvoir être à même de se doter des professionnels compétents pour former d'autres.
Alors si je comprends bien ce que vous dites, vous manquez plus de formateurs finalement.
Nous manquons de formateurs. On n'a jamais formé de psychologue, on n'a jamais formé de psychiatre. On commence et puis on va faire équipe. Faire équipe, c'est très intéressant parce que c'est le meilleur remède contre la solitude.
La voix du professeur Moutéda Mounsa, aujourd'hui décédé, il a marqué et il a formé toute une génération de thérapeutes rwandais, dont vous faites partie, Emilienne Mukansoro. Quel souvenir gardez-vous de votre rencontre avec Nason ?
Que j'ai rencontré Nason Moutéda Mounsa, je venais d'accueillir un jeune homme qui étudiait à l'université. Un jeune homme qui, pendant le génocide, on avait fait violer sa maman. Ce jeune homme avait quitté sa maman à la fin du génocide et n'a jamais revu sa mère parce qu'il ne pouvait pas la regarder dans les yeux, il ne pouvait pas la regarder en face. Il souffrait parce qu'à l'université, il n'avait pas de copine. À l'université, il ne pouvait pas regarder une fille en face, il me disait « Je ne suis pas un homme ». Ce jeune homme voulait accuser le violeur parce qu'il le connaissait. Il connaissait cet homme et sa maman lui a répondu « Non, si jamais l'homme est accusé, je me donne la mort ». Alors le jeune homme est venu me voir et me dit « Qu'est-ce que je fais ? Moi, j'aimerais bien me retrouver, j'aimerais bien redevenir un homme, j'aimerais bien vivre ». Alors, je me culpabilisais parce que je me disais, je ne peux rien faire pour ce jeune homme, pour sa maman.
Donc, vous décidez d'en parler justement à ce psychothérapeute extraordinaire qui a formé une première génération de psychothérapeutes au Rwanda. Qu'est-ce que vous lui dites et qu'est-ce qu'il vous répond ?
Alors, Nason Moutéda Mounsa, extraordinaire, humain. Qui dégage une force extraordinaire. J'en décide, donc, et on est en groupe, et j'en parle. Je raconte le cas. C'était difficile à entendre, c'était dur. Et quand j'en parlais, j'avais des larmes aux yeux. Et chaque fois, il avait une réponse simple. Il me dit, je ne crois pas que devant ce cas, je ferai plus que toi, Emilienne. J'ai confiance en toi, tu peux y arriver. Et là, il ajoutait un mot que j'adorais beaucoup. Ma chère, tu peux y arriver. Tu es forte. Apparemment, il ne m'a pas donné une réponse. Il m'a rien dit.
Il vous a donné sa confiance.
Mais il m'a donné sa confiance. Et là, je suis retournée là où je travaillais. J'ai accueilli encore le jeune homme. Et j'ai eu l'idée d'accueillir sa maman. Et c'est avec sa maman qu'on va trouver une solution. À la troisième séance, la maman me dit oui, je suis d'accord. Je suis d'accord pour que notre violeur soit accusé. je donne la permission à mon fils de l'accuser, mais je ne serai pas dans son procès. Et après, ce que j'ai raconté, qu'on a eu une fin heureuse, c'est que le violeur nous dit, nous avons essayé de faire violer le fils, mais ça n'a pas marché. Nous avons tout essayé, ça n'a pas marché. Oui, sa maman était inconsciente, mais il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu de contact du corps du fils au corps de sa maman. C'était pendant le procès, c'est le violeur qui nous disait ça. C'est une bonne nouvelle à la maman du jeune homme. Je les ai accueillis dans mon bureau. Le fils n'a pas eu à raconter parce que la maman était déjà au courant, je ne sais pas comment. Mais il a pris son fils dans ses bras. Et voilà, l'enfant a regardé sa maman en face. Et la maman aussi a regardé son fils en face.
Nous parlons des gachacha, Emiliane Mukansoro. Parce qu'en 2007, vous retournez dans les collines au moment de ces juridictions gachacha. Pour nos auditeurs, on va expliquer très rapidement. C'est un processus de justice populaire à l'échelle de tous les villages du Rwanda, où plus de 2 millions de dossiers ont été traités. Et dans un même village, victimes et bourreaux donc sont confrontés afin de décider des peines de prison pour les bourreaux si suffisamment de preuves sont énoncées à leur encontre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour les Rwandais du point de vue de la parole, puisque c'est cette parole qui nous intéresse justement, Emiliane?
Alors, pendant les juridictions gachacha, je rappelle que ça se passait sur les collines.
Donc dans les villages?
Dans les villages. Et le génocide a eu lieu au village. C'était la première fois où le rescapé allait affronter son tueur. Et je crois que c'est la première fois aussi où le tueur allait être en face de sa victime. Et pendant les judiciaires gachacha, il fallait parler. Les rescapés pouvaient parler. Au moment où, pendant le génocide, ils n'avaient pas le droit de parler. Parce que parler, ça attirait la mort. Et le tueur qui est là, ou le présumé tueur qui est là, avec le soutien donc, de sa famille, même des voisins proches, et le rescapé est là, souvent seul.
Bien sûr, parce que sa famille, justement, a été assassinée, disséminée.
C'était difficile pour les rescapés. Bien sûr, moi, j'étais là pour les accompagner. Il y avait d'autres qui les accompagnaient. Mais c'était toujours difficile. Et c'est une parole qui est mise en doute parce que tu étais en cachette. Souvent, les Inyangamugayo, en français, c'est les intègres. Les Inyangamugayo, donc les intègres qui étaient juges pendant les Jeux de Gachacha, demandaient aux rescapés, comment tu as entendu ça? Comment tu l'as vu alors que tu étais en cachette? On oubliait que les cachettes pouvaient être des plafonds, les cachettes pouvaient être des brousses. Et souvent, on attendait ce qui se disait, on voyait ce qui se passait, mais on n'avait pas le droit de dire non. Donc, ne tuez pas les gens ou arrêtez ce que vous faites. Mais on attendait, on voyait les choses.
Et on se taisait pour se protéger, bien sûr.
Ouais. Parce que là, ce que j'ai dit, le silence était vraiment la suivi.
En 2007, Emiliane Mukansoro, vous vivez l'expérience des gachacha. Pour la première fois depuis le génocide de 94, les Rwandais se rassemblent au village et au fond sont obligés de se parler pour que ces procès puissent avoir lieu. Et un an plus tard, en 2008, vous devez assumer l'accompagnement des femmes dans les procès, cette fois sur les viols. Et je rappelle pour nos auditeurs que selon les chiffres de l'ONU, entre 250 000 et 500 000 viols ont été commis au cours du génocide sur des femmes Tutsis et aussi sur des femmes Hutus mariées à des Tutsis. Quelle était votre première question, la première interrogation qui vous est venue à l'esprit face à un tel tabou? Parce qu'il faut quand même rappeler que, avant qu'une femme puisse être prête à témoigner au procès, il faut la préparer, et c'est votre rôle. Mais vous vous attaquez à un tabou énorme, le tabou du viol.
Avant d'accompagner les femmes dans leur procès, j'avais accueilli dans mon bureau quelques-unes qui victimes de violences sexuelles. C'est difficile d'en parler parce qu'on se sent coupable.
En tant que femme violée.
En tant que femme violée, on se sent coupable. Parce qu'il y a des femmes qui me disaient, nous avons été lâches. Parce que mieux vaut être tué que être violée. Et quand les procès de viol commencent, il fallait que je prépare ces femmes. Bien sûr, il y a des femmes qui n'ont pas pu. Mais il y a d'autres qui ont dit, oui, nous allons témoigner. Mais c'était si difficile que la souffrance traversait la femme pour m'atteindre. Donc, je n'étais pas épargnée pendant ces procès. Les femmes qui ont pu témoigner ont été courageuses. Vraiment. C'était dur parce qu'il fallait expliquer. Il fallait donner des détails. Et les tueurs, les violeurs, ils savaient très bien qu'avec le viol, c'était pas rigolo. Donc, ils pouvaient pas être épargnés. Donc, eux aussi racontaient les détails de ce qu'ils ont fait subir à la femme. S'il y a quelque chose qui a été dur pour moi, c'est ça.
Emilienne Mugansoro, il faut bien que l'on remette cette violence sexuelle qui est le viol dans le cadre du génocide de 1994. Pour la Tutsi Kazi, qui est la femme Tutsi, en quelque sorte, c'est double peine. Elle est déjà femme dans une société où les femmes ont des difficultés à exister, à prendre leur place. Et en plus, elles sont désignées comme Tutsi, donc comme des femmes impures, maléfiques, inférieures. Ça, ce sont les mots de la propagande extrémiste Hutu, du gouvernement qui va organiser ce génocide avec le relais des bourgmestres, des maires hein, de chaque commune, de chaque village, sur chaque colline. Comment s'inscrit le viol dans le processus génocidaire? Qu'est-ce que ça représente pour les violeurs que de procéder à cette violence extrême sur les femmes Tutsi?
Le viol a été utilisé comme une arme du génocide. Le génocide était d'exterminer les Tutsis. Le viol était d'exterminer, mais en partant de quelque chose qui donne la vie. Parce que c'était détruire le corps de la femme. C'était de détruire le corps.
Qui donne la vie aux Tutsis.
Qui donnait la vie aux Tutsis. En même temps, les tueurs savaient très bien que violer les femmes, c'était les tuer. Les tuer d'une façon atroce. Les femmes le disent aujourd'hui. Elles disent, nous avons été tuées parce que nous gardons la mort en nous. On est vivant, mais on garde la mort parce qu'en nous, nous portons la mort. Après le génocide, beaucoup de femmes ont eu des séquelles. Il y a aujourd'hui des jeunes filles qui ont été violées, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, parce que leurs organes reproductrices ont été détruits.
Et puis toutes ces femmes qui ont été inoculées par le VIH,
ouais,
qui pour beaucoup sont déjà décédées du sida et qui pour d'autres survivent tant bien que mal en étant séropositives.
Oui. Beaucoup de femmes qui ont été violées portent le VIH. Il y a une femme dans le groupe qui nous raconte souvent, parce qu'elle prend les médicaments contre le sida chaque matin, et quand elle prend les médicaments, ça lui rappelle ce qu'elle a subi pendant le génocide. Nawukiri honu ngwa bavandimwe ba ni shuti zaho mvuye baramutsa mawo.
Vous écoutez RFI, la marche du monde.
Depuis toutes ces années, vous avez appris à accompagner ces femmes, souvent démunies. Vous êtes une pionnière, Emilienne Mukansoro, au Rwanda. Ces femmes sont parfois en fin de vie, à cause du sida contracté au moment du viol. D'autres sont déjà mortes, en tout cas. Elles sont toutes détruites physiquement et moralement. De quelle façon vous inventez cet accompagnement? Vous avez été formée, on l'a dit, par le professeur Mignonda Moutsa Nassan, qui aujourd'hui est mort, mais qui a laissé cet héritage à travers vous, Emilienne Mukansoro, et quelques autres psychothérapeutes qui accompagnaient ces femmes au Rwanda, qui créaient ces groupes de parole. Et ce sont des pratiques très novatrices dans votre pays. Comment ça se passe, ces groupes?
Les femmes se rencontrent. Alors d'abord, il faut les chercher.
C'est ce que j'allais vous dire. Elles viennent peut-être pas très spontanément.
Il faut les chercher parce que elles savent pas ce qu'elles ont. Elles savent pas. Elles ont des symptômes, mais elles connaissent pas.
Elles ne comprennent pas ce qui leur arrive.
Non. Alors on va les chercher. Les premiers groupes, pour les former, pour les organiser, je dis allez sur les collines, organiser des réunions des femmes.
Donc dans les villages.
Et raconter, parler du traumatisme en général. Et leur dire qu'elles ont subi le pire, qu'elles ont subi des choses horribles. Et que la seule façon de s'en sortir, c'est d'en parler. D'en parler à quelqu'un qui écoute, d'en parler à quelqu'un qui est bienveillant, de mettre les mots, même si c'est difficile.
Et peut-être de se rendre compte aussi qu'on n'est pas tout seul.
Oui. Chaque fois que les femmes arrivaient, j'étais là pour les accueillir. J'accueillais chacune. Chacune, je la prenais dans mes bras. Et je disais, Karibu. Karibu, c'est dire bienvenue.
En Kinyarwanda.
En Kinyarwanda. En Swahili, Karibu, c'est en fait en Swahili, c'est pas en Kinyarwanda. En Kinyarwanda, on dirait Urakaza neza. Donc, bienvenue. Et puis, après, on est assis sur un demi-cercle ou un cercle, de façon que chacune voit l'autre.
On se regarde.
On se regarde.
Pour se parler.
Et ça, c'est très important. Parce qu'il y a des femmes qui n'osent pas les regarder.
Et qui ont honte d'être vues.
Qui ont honte d'être vues. Et après, je pose la question, tu veux être dans le groupe, tu veux faire partie du groupe. Et curieusement, presque tout le monde veut rester dans le groupe. Bon, les femmes peuvent décider de parler de leur vie, étant jeune fille, de leur mariage, de leurs premiers enfants, de leur mari quand ils étaient encore vivants. Et là, tout ça, on le partage en groupe. En groupe, on a droit à la parole. Parce que parler, c'est reprendre le dessus sur le passé. Parce que parler, c'est vaincre la mort. Parce que parler, c'est se dire, je suis en vie. Ndiho. Ndiho, c'est-à-dire, je vis. Je vis avec les autres. Je vis, je ne suis pas seule. Voilà le groupe. Et après le groupe, on se dit au revoir, on se quitte, et chaque fois, on se prend les mains. Et souvent, les femmes choisissent de prier. Elles prient ensemble. Mais se prendre les mains, ça dit quelque chose. C'est comme partager la force. C'est la force qui circule. Et puis après, on se prenne dans les bras et on se souhaite quelque chose. On dit un mot qui donne la force. Et j'adore le mot « comme la Kinyarwanda, sois forte ». Ou un autre mot « Nuriwenyine ». Nuriwenyine, c'est-à-dire « tu n'es pas seul, tu n'es plus seul ».
Les femmes violées pendant le génocide des Tutsis du Rwanda apprennent à redevenir des femmes en reprenant la parole au sein des groupes que vous accompagnez en tant que psychothérapeute, Emiliane Mukansoro. La parole, c'est la vie, vous l'avez dit. Ça leur permet de redevenir des femmes, des mamans. Parce qu'il y a aussi la question de leurs enfants. Et une autre maman vous confie les reproches que lui adresse aujourd'hui sa propre fille. « Toi, tu as donné ton corps pour survivre, mais ta survie est comme un péché. Papa, qui n'a rien donné en échange, a été tué. Toi, tu as monnayé ton corps pour la vie. Lui a choisi plus de dignité. » Il y a aussi cette question du regard des enfants aujourd'hui sur ce qui s'est passé hier, Emiliane Mukansoro. C'est extrêmement difficile d'entendre ça pour une maman.
Ouais. C'est une maman qui a été violée devant sa fille. La fille avait entre 12 ans et 13 ans. Elle ne pouvait pas comprendre. Après, quand la maman a raconté ça en groupe, il fallait que la maman puisse parler à l'enfant. On ne sait pas quoi raconter à nos enfants et comment raconter et quand raconter. Après, on a organisé une séance. J'ai organisé une séance où les deux se sont rencontrés parce que j'étais là, parce qu'il y avait une autre présence. La maman a pu raconter. Pourquoi? Pourquoi? C'était difficile de dire pourquoi, mais il a dû raconter ce qui s'est passé. Et la fille l'a comprise.
Emiliane Mukansoro, il y a aussi bien sûr la question très particulière des enfants qui sont nés du viol pendant le génocide en 1994.
On aime les appeler les enfants nés du viol comme s'ils ne grandissent pas. Aujourd'hui, ils sont des jeunes hommes beaux, adorables, des jeunes filles très belles. Sont pas, mais on les appelle toujours les enfants nés du viol. En grandissant, ces enfants ont un problème très sérieux d'identité. Nombreux ne connaissent pas leur père. Parce que les mamans ont été violées par plus de 2 hommes, ou 3 ou 4, même jusqu'à 10. Et elles peuvent pas savoir qui est le père de leurs enfants. Et même les mamans qui arrivent à savoir, donc, à se dire tel est le père, ce père est leur violeur. Alors, comment dire à ton enfant que ton père et mon violeur, que ton père est tueur.
Emiliane Mukansoro, vous encouragez les mères à dire la vérité aux enfants avec des mots compréhensibles pour les enfants. En tant que psychothérapeute, vous expliquez dans les groupes de femmes qui ont été violées pendant le génocide que ce n'est pas en gardant le silence, que ce n'est pas en gardant le secret qu'elles vont protéger leurs enfants. Est-ce que c'est ça votre message?
Alors, c'est pas seulement mon message, en groupe, on en discute. On en parle. On se dit que peut-être le mieux serait que les enfants sachent ce que les mamans ont subi. Alors, ce n'est pas facile. Les mamans me disent, comment le dire? Quels sont les mots que je vais utiliser pour raconter cette chose horrible que j'ai vécue? Comment le dire à mon enfant sans le blesser? Est-ce que c'est une façon de protéger les enfants qui nous restent parce qu'ils ont perdu beaucoup d'enfants? Mais on se dit, je leur dis, peut-être que c'est mieux de le dire. De commencer petit à petit, d'y aller doucement, mais de raconter quand même. Et de promettre à l'enfant que tu vas raconter jusqu'au bout, mais que tu vas raconter suivant ta force et suivant aussi la force de l'enfant.
À l'écoute
et à entendre.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude, réputation recouverte d'un linceul. Petit pays, pendant 3 mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné. Quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes.
Kaugu katoyi, kaugu kaniniya, wala punumani wapuye.
Le pouvoir des mots face au poids du silence, comment les groupes de parole peuvent participer à la reconstruction du tissu social, sachant que votre expérience est novatrice au Rwanda, vous êtes une pionnière, Emilienne Mgonsoro. Mais 25 ans après le génocide, le paysage de la société rwandaise change, puisque d'anciens bourreaux sont sortis de prison. Est-ce qu'il faut également les accompagner ? Est-ce que vous imaginez pouvoir constituer des groupes de parole également avec les bourreaux ?
J'ai déjà commencé. C'est pas un travail facile parce que je suis survivante, je suis rescapée. Et les bons sont les bourreaux, même s'ils sont sortis, même s'ils sont terminés leur peine. Mais ils sont bourreaux. Mais ce que je viens de remarquer, c'est qu'ils ont leur souffrance.
Est-ce que ça a été difficile pour vous de pouvoir l'entendre, cette souffrance?
Oui. Ce n'est pas la même chose. Écouter le rescapé, ça m'aide aussi. Ça m'aide beaucoup. Et puis écouter les bourreaux, ça ne m'aide pas. C'est difficile de les écouter parce qu'ils ont un autre langage. Ils ont un autre langage et que je décode difficilement parce qu'il faut décoder le langage pour comprendre. C'est facile avec leur famille parce que j'ai des groupes aussi avec leurs enfants. Parce que leurs enfants...
Les enfants de bourreaux.
Les enfants des bourreaux portent la responsabilité qui n'est pas la leur. Portent la honte de leur famille. Alors que souvent... Ils savent pas ce que leurs parents ont fait. Ils ne sont pas responsables. Ils ont besoin de vivre comme des enfants, pas comme les enfants des bourreaux. Et grandir dans une société qui t'aime, qui t'aide à grandir. Mais, ce qui m'encourage à aider, à écouter les bourreaux, c'est que ces bourreaux habitent le même village que les rescapés. Donc, je me dis, je me trompe peut-être, mais je me dis, en écoutant les bourreaux, c'est peut-être une façon aussi d'aider les rescapés qui habitent le même village que leurs bourreaux.
Et c'est là que vous trouvez le courage,
ouais,
de créer des groupes de parole avec les bourreaux,
ouais.
Emilienne Mgonsoro.
Oui, c'est vraiment là où je trouve le courage. Sinon, je ne pourrais pas.
Comment vous vous y prenez, Emilienne Mgonsoro, vous-même, vous êtes rescapée. Comment vous vous y prenez pour mettre en confiance un bourreau?
C'est une bonne question. Avec le groupe des rescapés, j'avais une façon de faire. Chaque fois, je suis sur le lieu de groupe de rencontre avant et je les accueille.
Comment?
Je les accueille, je paie... tendre ma main, je peux les prendre dans mes bras, mais je les accueille. Donc,
comme n'importe quel être humain que vous accueillez dans votre groupe.
Et pour moi, le bourreau qui est devant moi, ce n'est pas un bourreau, c'est une personne en souffrance. Et je suis là, j'écoute, j'accompagne, j'offre ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est moi.
Emilienne Mgonsoro, vous êtes une psychothérapeute pionnière au Rwanda. Vous accompagnez les femmes qui ont souffert des viols pendant le génocide. Vous allez jusqu'à faire des groupes de parole avec les bourreaux. Pourquoi vous avez ce courage-là? À quoi ça sert? C'est quoi l'enjeu pour vous au sein des villages entre victimes et bourreaux? Qui sont les Rwandais d'aujourd'hui?
J'aimerais bien que sur les collines, les gens se respectent. Il y a des souffrances. Les rescapés souffrent. Et Il est temps que les bourreaux sachent que c'est eux qui ont fait souffrir les rescapés. Les bourreaux ont leur souffrance. Ils ont perdu de l'humanité ou de l'humanisme. Ils ont perdu quelque chose. Ils ont fait du mal à leur famille, à leurs enfants, à leurs femmes. Il faut que eux sachent que pour vivre sur le même village que les rescapés ou pour mieux vivre dans leur famille, il faut qu'ils parlent d'abord à leur famille et peut-être qu'ils essaient de parler aux rescapés, qu'ils demandent pardon, un vrai pardon. Un vrai pardon parce que pendant les Jeux de Tcha-Tcha, ils demandaient pardon à l'État et les rescapés en général. Mais il y a quelqu'un à qui tu as fait mal. Pourquoi ne pas aller demander pardon à ce quelqu'un au lieu de demander pardon en général? Je raconte un cas d'un homme dans le groupe qui nous dit « Là, j'ai compris, j'ai été accompagné en groupe, je veux aujourd'hui demander pardon à quelqu'un à qui j'ai fait mal. » Il était prêt. L'homme va chez la femme, la veuve, qui n'a plus son mari. Il dit à la femme, je viens pour te demander pardon. J'ai tué ton mari. Je suis coupable. Et je me sens vraiment mal. Parce que c'était un ami à moi. Et je l'ai tué pour rien. J'ai pas de raison. La femme est tirée pour à l'homme. Merci, ça me soulage. Parce que au moins, tu reconnais ce que tu as fait. Et ça, c'est important pour moi. Parce que je croyais que tu étais une bête sauvage. Je croyais que tu n'étais pas quelqu'un qui pouvait au moins reconnaître ce que tu as fait. Moi, ça me fait bien. Ça me fait du bien. Mais, je n'ai pas droit de te pardonner. C'est le premier pas. Et moi, ce que je veux, c'est ça. Ce même homme qui est allé demander pardon, mais aujourd'hui, après qu'il a au moins fait ce premier pas, il va dans les commémorations, il raconte, il témoigne ce qu'il a fait et ce que les autres ont fait. D'ailleurs, après, il a montré à la femme où il avait jeté le corps de son mari. 25 ans après, la femme a eu le corps de son mari.
Et donc, elle a pu faire son deuil.
Ouais.
Merci.
Merci aussi.
Rhonda, quand la parole répare les vivants. C'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et réalisé par Richard Rifono et Sophie Janin, avec la complicité de notre stagiaire, Adrien Simor. Réagissez sur les réseaux sociaux, exprimez-vous, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.